Ben oui, on est de retour. L'émission est là. Les deux animateurs de cette émission-là sont là.
Tabarnou,
pour cette semaine.
C'est de même, tu penses ça?
La semaine prochaine, elle me quitte déjà.
Ben oui, t'as mon tour.
Ben oui, pour le sud, la chanceuse. Oui. Parlant du sud, c'est pas aujourd'hui qu'on va lever, je peux vous dire, parce que les vents vont se lever dans les prochaines heures. C'est ce qu'Environnement Canada nous mentionne. C'est un genre de température ressentie actuelle de moins 12 degrés. Nuageux pour toute la journée. 5 à 10 cm qu'on nous annonce aujourd'hui avec de la poudrerie. Ça devrait débuter en mi-journée, nous dit-on, et se continuer ce soir. Neige et poudrerie par endroits. Des vents allant jusqu'à 80 km/h. Refroidissement éolien, moins 9 comme température ressentie au cours de la nuit. Minimum de moins 12, comme ça, pas comme. J'ai-tu mal lu? Là? Minimum moins 12, refroidissement éolien, moins 9 ce soir et moins 18 au courant de la nuit. Donc voilà. Et sinon, pour demain, on parle encore de neige intermittente qui devrait cesser en matinée. Salut Audrey!
Salut Yann!
Hey, j'ai-tu envié Jonathan Roy la semaine passée?
Oh boy, j'en ai tellement entendu parler, c'est gênant.
J'avais jamais vu quelqu'un crier dans un micro comme ça.
J'ai paniqué.
Vraiment?
Tout ça, c'est entendu. Oui, puis c'est public. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Boulevard 102. Ça a été des grosses émotions.
Ouais, je riais tout seul. Tu sais, je te connais un peu, là. Je te connais pas beaucoup, mais je te connais un peu. Puis de voir que cette réaction-là, c'était pas fin, là. Tu sais, t'es pas fin, cette réaction-là.
Oh, non,
c'était
non.
Vraiment... C'était là, ça se passait, puis fallait que t'as vive.
Il y avait rien de prévu dans tout ce qu'on a vécu mercredi passé, mais...
Petit chum, as-tu banni les tunes de Jonathan Roy à la maison?
Non, ou... il a ri.
Il a ri?
Non, il me comprend là-dessus parce que...
Lui aussi, Jonathan Roy, ça y fait ça?
Oui, exactement. On a un rêve commun,
écoute,
mon chum et moi.
Moi, je juge pas.
Non, mais mon chum m'a déjà vu réagir comme ça avec un autre artiste. Que je voulais pas voir parce que ça me gêne. Je sais pas pourquoi, Charlotte Cardin. Fait que je pense que ça l'a pas surpris. Il y a deux voix, moi, qui me saisissent au Québec. C'est Jonathan Roy et Charlotte Cardin. Je trouve que leur voix transperce l'âme. C'est pas compliqué, là. Deux voix qui me rendent émotive vraiment facilement. Puis c'est comme si j'ai pas assez de mots pour exprimer à quel point ils ont du talent. Puis c'est pas quelque chose que j'ai envie de leur dire parce que je sens que ça passerait dans le beurre un peu, tu sais.
Parce qu'ils savent.
Ils sont pas là pour rien. Tu vas me dire que ça fait toujours plaisir, là, mais quand même. Puis c'est comme si, quand Denis a voulu aller le chercher dans le corridor, je me suis mis à paniquer parce que je savais que je perdrais mes moyens. Là, on rit bien parce que c'est un beau gars, là. Mais c'est surtout ce que sa musique me fait, finalement. Fait que, non, ça a été une grosse semaine, Yann.
Moi, je pense que j'ai entendu une ou deux de ses tunes que j'avais bien aimées. Je suis pas quelqu'un qui va écouter ses albums au complet.
Ouais.
Mais ceux qui pognent le plus, j'apprécie pas mal. Il y a une voix exceptionnelle.
Eh, mon Dieu! La performance qu'il a fait en studio, là, je veux dire, ça aurait pu aller direct sur un CD. Là, ouais. Pas besoin de modification.
Mais je sais pas si avec la voix qu'il utilise pour chanter, il pourrait faire des shows tout le temps régulièrement. Parce qu'il
se
la
fait
force
régulièrement.
Fort. Là. Ouais, mais je pense qu'il est rendu à une cinquantaine de shows. Là. Il pourrait en faire pas mal plus que ça avec le talent qu'il a.
Ouais.
Mais il se limite à une cinquantaine de shows pour conserver cette voix-là qui est exceptionnelle. Là. Et elle pousse fort. Là.
Oui, parce qu'elle pourrait effectivement être très, très irritée. Là. Il chante sur un range qui est assez grand,
c'est
aussi.
Ça.
Fait que non, c'est un gars qui est franchement épatant. Puis ça a donné des beaux moments en onde. Ceci dit, tu vois, j'en garde des bons souvenirs parce qu'il y a eu performance. Fait que je pense qu'on est capable d'oublier le bout d'avant, là, où j'étais pas gérable, puis de se souvenir vraiment de ce qu'il a laissé en onde comme moment mémorable.
Il t'a-tu donné des becs en arrivant?
Oui, j'ai eu droit à la bise. Je me souviens de rien, Yann. Je vais être bien honnête.
Il sent-tu bon?
Je sais pas. Ça s'est tellement passé vite. J'étais tellement mal. Hey, sérieusement, je me souviens pas. Tu le sais, là, j'ai le dos large. Il n'y a pas grand-chose qui est tabou, qui me gêne tant que ça dans la vie, mais j'ai vraiment perdu mes moyens. J'ai pas grand souvenir. Puis je regarde les images, puis j'ai de la misère à me remémorer, mettons. Tu sais, des fois, tu le sais que t'étais là, tu le sens, t'étais dans le moment présent. J'étais pas dans le moment présent. J'étais dans le futur où ce moment-là allait terminer, tu comprends?
OK.
Fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs.
Puis tu te voyais-tu comme la bague au doigt, puis qui
pas
disent
tout.
Oui?
Non. Okay. C'est ça que je veux pas qu'il soit laissé comme impression. C'est un très beau bonhomme.
Moi, j'avais une de mes blondes qui avait donné la bise à... comment il s'appelle? Si je pleure dans la pluie.
Ah, Mario Pelcha.
Mario Pelcha. Quand elle était revenue à la maison, là, elle était perdu ben raide dans le brume.
Arrête!
Elle me disait, il sent tellement
bon. Ben voyons
il
donc.
Est tellement.
Il est fin, Marie
Il est
Pelchat.
Tellement bien habillé. Écoute, j'étais là un moment donné. Okay,
ouais, vas-tu me laisser?
Non, mais. J'ai dit, tu peux aller chercher son parfum. Tu me le donneras, je vais le mettre. Ça peut te faire penser à lui.
Ah, oh, il est tellement smart. En plus, je l'ai rencontré une fois dans une animation de mariage. Je pense que c'est sa fille ou sa belle-fille qui se mariait, je ne sais plus trop. Là. Il était tanné à la fin de sa soirée parce que tu comprendras qu'il y a des invités qu'elle ne connaissait pas et qui voulaient entendre ses tunes. Puis c'est moi qui mettais les chansons. J'étais dit joker dans ce mariage-là. Mais c'est un gars super, super sympathique. Mais bref, tout ça pour dire que Jonathan Roy a laissé sa trace. Il charme partout où il va. Hein. Il fait les tournées en ce moment de radio parce qu'il promouvoit les spectacles qui s'en viennent puis le stock qui va sortir. Mais c'est un gars très talentueux.
Ouais, il y avait un article dans le journal d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est d'aujourd'hui ou dans la fin de semaine. J'ai lu ça un peu sur lui. Il a fait énormément d'argent avec YouTube, lui. C'est
ce qui
a permis de faire le tour avec son van life. Là, parce que c'est un gars qui tripe sur le van life. Je pense que c'est 126 millions d'écoutes sur YouTube. Ben, ça lui a permis de se promener un peu partout.
Oui, ben, c'est la chanson « Keeping Me Alive » en fait qui a permis ça. C'est cette tune-là qui a été super populaire pour lui. C'est celle-là d'ailleurs qui a ses 137 là, de mémoire, pour être précise. Là, mais c'est celle-là qui a fait le plus d'argent. Puis j'aurais pas pensé, moi, j'aurais pensé que ça aurait été le vidéoclip de « Good Things » qui est une de ses premières tunes qui a vraiment pogné, il est tout nu. Je suis sûre que c'est ça qui aurait lancé, tu comprends, sa carrière. Il semble que ça attire l'œil.
Jonathan Roy tout nu.
Tout nu dans une douche. Mais non, sans blague, il est vraiment talentueux. J'écoute, je pourrais t'en parler pendant des heures. Je te le dis.
Ça se ressent.
Oui, non, mais c'est...
J'ai pas de... Je sais pas les auditeurs. Salut, en passant. 418-971-101. Y a-tu des artistes qui vous ont laissé pantois dans votre vie? Homme comme femme, là.
Ouais.
Tu sais, sans mots, là. C'est-à-dire, tu sais, si je le rencontre, je serre la main, je suis pas capable de dire quelque chose d'intelligent, là.
Mais moi, j'ai eu trop de mots. Rien d'intelligent, mais trop de mots. Je l'ai pas laissé parler, Yann. Il a peut-être dit quatre mots en nom avant de chanter sa tune. C'était gênant, là. Je sais pas, 418-971-101. Le pire, c'est-tu quoi? Je suis pas groupie, mettons, dans la vie. Tu sais, j'ai jamais eu le sentiment, en voyant des artistes ou en croisant dans notre job ou peu importe, de me sentir comme submergée de oh mon Dieu, c'est elle, tu sais. Je pense vraiment que lui, c'est parce que sa musique me fait de quoi? Il y a une vulnérabilité qui vient avec ça. Puis je pense que c'est ce côté-là que j'aime moins, la perte de contrôle de ce que tu fais me rend vulnérable. Puis ça, c'est bizarre.
Ah ouais.
Ouais.
Eh bien. Chris Hadfield, ça m'a fait ça. Je surveillais ce que je disais pour pas avoir l'air trop épais.
L'entrevue sur YouTube, en passant.
Chris Hadfield, ouais, mais ça fait une couple d'entrevues que j'ai avec lui depuis tout à l'heure. Mais quand je l'ai rencontré la première fois à Sainte-Marie, je surveillais ce que je lui disais.
Parce qu'il t'impressionnait.
Parce qu'il m'impressionnait, puis je voulais pas qu'il sache que j'étais un gros épais.
Je comprends.
Fait que je faisais attention à ce que je disais.
Je comprends totalement.
Puis j'essayais de poser des questions pertinentes qu'il ne lui était pas toujours posées.
Je comprends.
Parce que j'ai passé une couple d'heures avec lui là, cette journée-là. Chris Hadfield, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un astronaute canadien qui était dans l'espace, qui a fait des sorties dans l'espace. Puis sur nos ondes, d'ailleurs, il nous avait raconté sa sortie dans l'espace, comment il l'avait vécu ses premières secondes. Tout ça. Puis il y a des auditeurs qui m'en parlent encore régulièrement. Tu sais, l'entrevue avec Chris Hadfield, quand il a parlé de sa sortie dans l'espace, c'est rare que tu aies la chance de serrer la pince à quelqu'un qui est allé dans l'espace.
Ouais, c'est fou, là.
Chris Hadfield, c'est ça. Puis en plus, il y a comme le côté... Est-ce que tu as connu Jack Layton, toi?
Non.
Jack Layton, c'était un politicien qui était au NPD. C'était le chef du NPD. Puis à un moment donné, il y a eu la fameuse vague orange à la grandeur du Québec.
Ouais.
C'est Jack Layton qui était le chef. Puis il était malade. Il était cancéreux, Jack Layton. Puis, mais c'est un gars qui était hyper sympathique puis très naturel. Bon, il s'est fait pogner dans un salon de massage asiatique à Toronto. Mais à part ça...
Ouais, mettons qu'on met ça à côté, là.
c'est le gars avec qui tu voulais aller prendre une bière.
Sympathique au bout, là.
Puis Chris Hadfield, c'est le génie... Gars ordinaire. Encore aujourd'hui, il vit sur une ferme chez eux.
Ouais.
Tu sais, le gars, il peut vivre
t'as le goût d'être son chum,
à peu près n'importe où dans le monde.
Ouais.
Il vit dans sa petite ferme chez eux. Puis il a encore du plaisir à s'occuper de ses animaux, puis faire des vidéos, puis jouer de la musique.
Et c'est admirable,
je trouvais
ça.
Que ce gars-là était exceptionnel. Fait que lui, je me suis surveillé quand je lui ai jasé. Tu sais, j'essayais de pas trop avoir de l'air d'un épais.
Ouais. Ben c'est un peu ça que j'ai essayé de faire. Ça a pas marché. Je me reprendrai. J'espère qu'il va m'oublier d'ici là. C'est vraiment mon seul souhait.
Tu vas changer de coiffure.
Je vais peut-être m'atteindre les cheveux. Écoute. Parce que c'est ça, tu veux pas avoir l'air con. Puis j'ai raté ce bout-là. Là, franchement. Là.
Ouais, bon, bref. Hey, j'ai passé la semaine passée avec mes gars très intensivement là, parce que j'étais en congé. J'ai passé une bonne partie de la semaine en Beauce. Puis j'ai constaté à quel point nos enfants ont des problématiques avec leur cellulaire.
Ah, mon Dieu!
T'sais, moi, là, je leur mets des périodes de temps où ils peuvent jouer avec leur cellulaire. Quand ils font de quoi, mettons, ils se tapent dessus, c'est-à-dire à peu près aux 20 minutes, je leur enlève leur cellulaire. Puis, ils ont dit quelque chose en fin de semaine. Ils étaient en train de jouer. Ils ont trouvé comme un vieux jeu qu'ils ont reçu à Noël. Puis, ils n'avaient jamais vraiment joué avec. C'était un jeu de cartes.
OK.
Puis là, ils étaient les trois, parce que la préfab était à la maison aussi. Puis, ils étaient les trois. Puis, j'ai entendu la préfab, qui est un peu plus vieille, tu sais, plus mature, à peu près à la même âge que mon plus vieux, mais plus mature. C'est normal chez les jeunes filles.
Les femmes, oui, en général.
Elle a dit, « C'est fou ce que je ressens, à quel point ça fait du bien de m'éloigner de mon cellulaire. » Puis Joshua a dit la même affaire. C'est vrai, hein, ça fait du bien. Puis il y a un article dans le Journal de Québec aujourd'hui qui mentionne que la majorité des ados au secondaire seraient pour l'interdiction complète du cellulaire à l'école. C'est ce qu'on nous mentionne.
Y compris pendant les pauses puis le dîner. Là.
Y compris pendant les pauses et le dîner. Jusqu'à maintenant, il y a des endroits où le cellulaire est totalement interdit, surtout au primaire. Au primaire, tu n'as pas le droit d'avoir ton cellulaire et c'est une maudite bonne affaire. Mais à certains endroits, certaines écoles secondaires encore aujourd'hui, c'est un peu plus lousse. Donc, on vous permet d'aller sur les réseaux sociaux quand vous êtes à la sortie des cours ou encore sur l'heure du midi. Mais ce que les ados disent, c'est non, on pourrait l'interdire au grand complet parce qu'ils sont conscients de leur problématique, à quel point ils sont attachés à leur cellulaire puis ils sont pognés avec ça.
Je trouve ça hâte que ça vienne d'eux.
Ouais.
Tu sais, dans le sens que quand on a commencé à parler de l'interdiction des cellulaires, il y avait eu AOKA, entre autres, on parlait des boîtes, il y a toutes sortes de dispositifs qu'on essaie de mettre en place. Là. C'est nous, les adultes, qui tentons de décider pour ces jeunes-là, mais je trouve ça le fun que ce soit ces jeunes-là qu'on a interviewés, si on veut, pour ce genre de mesures-là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tatas, là, ils le savent bien, ils sont au courant que c'est une pourriture pour la vie, les écrans, puis que ça fait du bien surtout d'en sortir, puis d'être avec tes amis, puis de faire autre chose. Là. Je trouve ça le fun.
Oui, puis ils deviennent rapidement accros. L'autre jour, je sais pas si c'est à toi que je racontais ça ou encore aux autres femmes de ma vie, Pascal, ma blonde.
C'est jamais laquelle.
La mère de mes enfants.
Ouais, c'est ça.
Mais je sais que je jasais de ça avec une fille. Un moment donné, je suis descendu en bas, puis j'ai vu mon plus jeune, il était dans ses heures où il pouvait jouer à ses jeux vidéo. J'ai vu mon plus jeune, pendant qu'il était en attente de loader sa game.
Ouais.
Ben, il était sur son cellulaire parce que attendre quelques secondes pour que sa game reparte, c'était trop long pour lui.
Fait c'était de l'impatience.
Il tue le temps avec son cellulaire. Puis, tu sais quoi, je me suis vu. Parce que quand j'écoute mes games d'hockey, mettons les games du Canadien, là, pendant les pauses, je m'en vais sur mon cellulaire.
Ouais.
Pendant les arrêts de jeu, je m'en vais sur mon cellulaire. Mm. Vendredi, j'étais avec mon gars, on est allé au rempart. Il y avait quoi, 2500 personnes en place. Je salue l'équipe d'animation au rempart. Ils font vraiment une super de belle job. Les remparts cette année, c'est pas facile. Dagenais n'est pas revenu, je pense qu'il revient mercredi. Mais la qualité du jeu n'est pas toujours présente. On a l'impression qu'il n'y a pas grand cœur dans cette équipe-là. Le cœur de l'équipe, Patrick Roy, est parti. Mm-hmm. Puis c'est une équipe qui est en reconstruction. Fait que des fois, juste de regarder la game, c'est pas facile.
C'est presque plate par moment.
Je dirais que ça a commencé à brasser peut-être en troisième parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de jouer une game de hockey. Là. Mais l'équipe d'animation fait toute une job. Mm. Mais pendant les pauses, là, on allait voir. Tout le monde autour de moi allait voir le cellulaire.
Ben oui, c'est un réflexe.
J'ai-tu une notification? J'ai-tu un message? On est vraiment drogués à ça.
On est dans l'ascenseur. Nous autres, on est au cinquième. Là. Cinq étages, là, ça prend quoi? Une minute, même pas? On est sur nos téléphones dans l'ascenseur.
OK. Est-ce que ton cellulaire fonctionne, toi, dans l'ascenseur?
Oui.
OK.
Toi, non?
Parce que le mien fonctionne pas.
Ah, t'es chanceux?
Fait que tous ceux qui sont... Moi, j'étais avec Belle. Fait que tous ceux qui sont avec Belle, techniquement, ne fonctionnent pas non plus. Je pense que c'est juste un réflexe de gêne.
Peut-être.
Les gens ne savent pas quoi dire. Fait qu'ils regardent à terre ou ils regardent dans les airs, mais ils ne se regardent pas dans les yeux.
Moi, c'est un employé du cinquième étage, pas de chez Leclerc Communication, mais d'une autre business autour ici qui me l'a fait remarquer. C'est un homme qui doit être dans les 70. Je ne veux pas le vieillir. Là.
Ah, c'est M. Pépi!
On le croit. Oui, exactement. J'allais dire, on le croit souvent quand on va aux toilettes. Vraiment sympathique, ce monsieur-là. Puis, à un moment donné, c'est lui qui me l'a fait remarquer dans l'ascenseur.
Ouais.
Puis je me suis dit, hey, c'est vrai que c'est tellement niaiseux. J'ai le temps juste au pire de dire, hey, bonjour, ça va bien. Puis déjà, je suis rendue au rez-de-chaussée, là. Ça me fera pas mal, là. Il y a des gens qui regardent leur téléphone en descendant les escaliers. Quand on fait quelque chose qui est comme peu productif, on dirait qu'on a besoin de s'occuper. Mais tu sais, je veux dire, on fait pareil quand on va au gym, mettons. Combien de personnes font du tapis roulant ou du Stairmaster en regardant leur téléphone pour se changer les idées?
Il y en a qui regardent des séries.
Oui, amener leur tête ailleurs, coupable en passant. Là. C'est comme notre façon, on dirait, de s'échapper.
C'est ça. Mike Mossola, j'écoute beaucoup de radio, j'écoute beaucoup d'entrevues que j'avais pas écoutées. Mais ouais, je peux être coupable aussi. Mais on est pogné avec ça. Puis de voir que les jeunes s'en rendent compte, puis pour une majorité, sont en faveur de l'interdiction complète du cellulaire à l'école.
Je trouve ça
le fun. Puis on dit que c'est plus facile avec les jeunes qui arrivent en secondaire 1, secondaire 2, parce qu'eux autres n'ont pas eu cette éducation là où ils avaient le droit de l'avoir, leur cellulaire. Ils étaient au primaire. Fait que peut-être que pour les plus vieux, on pourrait leur donner comme une clause grand-père qu'on appelle.
Oh, c'est-à-dire,
bon, vas-y de façon responsable. Mais pour les plus jeunes, on pourrait se dire, OK, non, ça, vous autres, il n'y a pas de cellulaire à l'école, à moins que ce soit, tu peux l'amener, mais c'est juste qu'après les cours, tu peux prendre les appels de papa à maman. Là. Mais sinon, les appels passent par la direction.
Exactement. Ils ont quand même des téléphones. Je pense qu'on oublie ça des fois, ou plutôt les parents oublient ça. Tu as des parents qui paniquent, puis dans leur tête, si le téléphone cellulaire n'est pas là, ils n'ont pas de contact avec leur enfant. Là. Mais tu peux contacter ton enfant comme dans le bon vieux temps par le téléphone de la secrétaire de l'école. Ça se fait. Là. Moi, j'aurais aimé ça, je pense, pour vrai, qu'on me retire le téléphone quand j'étais au secondaire.
Moi, j'en avais pas.
Tout au moins, bien là, c'est ça.
Nous autres, on n'avait pas de cellulaire.
Ça, c'est notre légère différence d'âge, là.
Nous autres, là, on se réunissait dans... On avait toutes nos petites gangs. Je sais pas vous autres comment ça fonctionnait, mais on avait toutes nos petites gangs avec nos spots. Puis moi, c'était dans le fumoir. Parce qu'on avait le droit de fumer à l'école à une place bien précise à Cardinal Leroy. Ça s'appelait le fumoir. Puis c'était comme la porte d'entrée arrière.
T'as commencé à fumer à quel âge, coudon?
J'ai jamais fumé de ma vie.
Ok, tu
Sauf
traînais,
que mes
là.
Chums fumaient.
Ouais, je comprends.
Fait
que, moi, j'étais au rack à Bessic, puis j'étais avec mes chums aussi.
J'allais les voir là,
ouais.
Puis je passais quoi, 15-20 minutes là, puis je subissais tous les impacts de la fumée. Là. Je rentrais, là, j'avais les yeux bien rouges. Mon prof était persuadé que j'avais fumé de la drogue, alors je n'ai jamais fumé de la drogue. Puis j'avais la voix rauque.
Ouais.
Je respirais ça. C'était épouvantable. On était 20 dans un endroit qui était peut-être... c'était 5 par 8, mettons.
Hey, boy.
5 pieds par 8 pieds.
Un hotbox, là.
On était une vingtaine, puis on fumait là-dedans.
Oh!
Puis il y a quelqu'un, des fois, qui ouvrait un petit peu la porte pour aérer, mais c'était l'enfer.
T'étais aussi impacté, sinon plus, en passant, là. Sérieusement, là.
Mais je suis chanceux parce que mes deux parents fumaient. Puis à l'époque, Audrey, là, tu sais, tu peux pas remettre ça à 2025, là, mais à l'époque, là, c'était normal de fumer dans la voiture.
Ouais.
À l'époque, si tu avais un père ou une mère qui voulait respirer une fois de temps en temps, il te laissait un filet d'air quand tu étais sur l'autoroute. Là,
ouais.
Il laissait un filet, l'air, un filet d'air rentrer dans le char pour que les gens puissent voir quelque chose. Là. C'était épouvantable ce qu'on subissait, mais on s'en rendait pas compte. On dirait que l'éducation n'était pas rendue là.
Mais
là.
Ça faisait partie du quotidien.
C'est ça.
T'sais, moi, j'apprécie maintenant qu'on ait le 9 mètres là, des portes puis tout quand tu sors là, pour pas faire partie d'un nuage de boucan quand tu rentres dans une bâtisse.
Le monde ne mettait pas le ceinture de sécurité. Je me souviens, moi, que je me couchais la tête. Mon père conduisait, puis je me couchais la tête sur les cuisses, puis je dormais là, pas attaché.
Oh!
C'était le beau
comme
temps,
des
là.
Banquettes?
Ben oui, c'était des grosses banquettes. Ça ressemblait à du velours.
Oh, ouais.
Puis après ça, on a eu un genre de F-150, mais c'était pas un F-150, là, qui était sensiblement pareil, avec une grosse banquette en avant.
Ouais.
Tu pouvais embarquer 4-5 là-dessus.
Oui, mon grand-père avait ça.
Ça, c'était formidable.
Ouais.
Il y avait pas...
Ah, oh, c'est hot!
Il y avait pas de ceinture
pour... On est ailleurs. Hein?
Il y avait pas de ceinture pour tout le monde. Fait que là, tu dis, bon...
Serre-toi les fesses.
Non, c'est lequel que je préfère. OK, toi, tu vas mettre ta ceinture. Toi, tu vas mettre l'autre. Les autres, ben...
Tous, c'est les plus petits qu'on coinçait.
Oui. Moi, je me souviens, avec la famille Lamontagne, je me souviens qu'à un moment donné, il n'y avait plus assez de place dans le char. Puis j'étais côté passager en avant, mais dans le trou où tu mets tes pieds. Là.
Oui.
Puis j'étais assis là. Puis j'attendais que la run se finisse. C'était épouvantable.
Mais c'était le bon vieux temps pour certaines personnes. Je trouve ça tellement drôle. Le pire, c'est que, tu vois, c'est drôle, tu parles de ça. Puis à l'automne dernier, je suis montée dans ma famille sur la Côte-Nord. Puis pour aller à la mer, mettons, là, du village, c'est vraiment pas long, OK? Là. Puis je suis embarquée dans le coffre du troc de mon oncle avec mon chien, tu sais.
Ouais.
Puis je me disais, Christy, que la vie est belle. Ben oui, je veux dire, moi, j'étais à l'air frais, là. J'étais dans le bois du coffre avec mon chien, puis on s'en allait à la mer, c'était le bonheur. On pourrait pas faire ça ici, on s'entend, là. J'étais loin, loin, fort, fort, lointain, mais quand même, je me disais, crime, il y a une époque où ça, c'était normal.
Ouais.
Aujourd'hui, on pourrait pas, mais moi, je trouve que c'est du bonheur, là.
Au mois de décembre, j'étais au Mexique, puis la run entre l'aéroport puis le resort, tu vois des affaires que tu vois pas ici, là.
C'est normal.
Tu sais, des gens qui sont dans la boîte en arrière, sont pas attachés, ça roule à 80 km/h, sont en train de prendre une petite bière. Là.
Quand j'étais en...
Ils t'envoient la main.
Oui.
Puis à un moment donné, nous autres, on avait pas un gros autobus, on avait un petit autobus avec les fenêtres qui s'ouvraient. Puis la madame qui était assise côté passager avec le passager, ils nous ont mis une bière par la...
Pour que t'apprennes!
Ben, c'était plus ma conjointe qui était là. Wow. Ils ont voulu comme donner une bière à ma conjointe. Ma conjointe a dit non. Mais merci, tu vois pas ça ici, là?
Mais non, pas en tout. En secondaire 4, je suis allée faire un voyage humanitaire en République dominicaine. On allait construire une maison pour une certaine famille, pour une dame qui avait 91 ans. Puis en tout cas, on s'en allait faire un voyage humanitaire de 3 semaines. Puis ils nous ont mis toutes les élèves dans une boîte de troc, là, pour nous amener au village, là. Fait qu'on était toutes là cordées, tu comprends? Mais ça me faisait rire parce qu'il y avait des gens autour de moi qui vivaient ça pour la première fois, c'est d'être mis dans une boîte de troc. Puis je veux dire, c'est pas les plus belles routes au monde, là, mais c'est une immersion, c'est complètement autre chose. Mais c'est trippant.
C'est une autre façon de faire. Colosse qui nous dit, salut Yann, dans les tunnels de l'Université Laval. OK, je viens de comprendre. Dans les tunnels de l'Université Laval, quand je me promène avec les buggés électriques, il faut que je fasse attention pour ne pas frapper personne parce que les autres ne font pas attention à ce qu'il y a devant eux. Ouais. Fait qu'ils sont avec leur cellulaire, ils marchent tête baissée, puis ils peuvent rentrer dans à peu près n'importe quoi, là.
Samedi, j'étais allée à l'épicerie, OK? Puis c'est super banal, mais je trouve que ça représente tellement la situation des téléphones. Il y avait une jeune mère avec son petit qui devait avoir comme 3 ans. Il marchait à côté d'elle. Elle le tenait pas par la main et il la suivait. Puis elle était sur son téléphone. Puis on s'est comme croisé une intersection, tu sais, en T, mettons, là, où j'ai failli rentrer dedans. Puis là, j'attendais de voir si elle allait passer ou pas. Elle a jamais quitté son téléphone des yeux. J'aurais pu prendre son petit et partir avec si je voulais, là. Elle tenait pas par la main pendant tout, là. Puis j'ai fini par passer. Elle s'est tellement habituée d'avoir son sel qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose devant elle. Mais tu sais, elle n'a jamais levé les yeux, mettons, pour me dire excuse-moi, ou tu peux y aller. Ou, elle marchait sur son sel. Elle a quitté l'épicerie. Jamais, jamais levé les yeux de son téléphone après avoir payé pour se rendre dans l'auto. Tu avais son petit qui a suivi en arrière. Puis je me disais, Colin Debine, y a-t-il quelque chose de si important pour que tu prennes pas le temps de lever les yeux, de prendre ton petit coco par la main, être sûr que personne parte avec, là, puis regarder autour de toi, prendre conscience de ton environnement.
Je pense qu'on se rend pas compte de ça, malheureusement. Allô, je suis un professionnel en santé mentale. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui utilisent leur cellulaire comme gel émotif. Ça leur permet de s'évader et ne pas penser à leurs problèmes. C'est certain que ça peut être son habitude ou simplement pour passer du temps, mais je pense que c'est à considérer également.
Remplir
la gêne aussi.
Ouais.
T'es au bar, là. Est-ce que t'as un bar qui est en rond? Il y a des petits écrans pour la télé, le sport et tout ça. Il y a énormément de gens. Les gens ne se parlent plus au bar, là.
Non.
Avant, les gens se jasaient. Là, ils sont sur leur cellulaire, peut-être. Puis, tu sais, le niveau social n'est plus autant développé qu'il l'était avant. Là. C'est rendu que quelqu'un qui est hyper sociable passe pour un débile mental dans une soirée.
T'as tellement raison.
Hey, salut, moi, c'est Audrey. OK, salut, moi, c'est Yannick. Je suis content de te rencontrer. Tu sais, toi, tu te présentes
c'est
à tout le monde.
Que tu dises ça. Oui, non, mais c'est fou que tu dises ça parce que quand j'étais plus jeune, j'étais au centre d'achat à Rosemère avec une de mes chums de filles au Spring en train de m'acheter des souliers. OK, je m'en souviens, là. Et il y a un gars qui s'est pointé vers nous pour nous dire hey, alors, puis là, nous, les téléphones faisaient partie de nos vies, là. Hey, les filles, ce soir, tu sais, j'espère que vous allez bien. Il se présente, Simon Jazet, avec nous autres. Puis il nous dit que ce soir, il y a un party avec des chums de gars puis des chums de filles chez eux. Ils habitent dans tel coin. Puis bon, ça donne qu'on jase, parle, jase avec l'école. On a des amis communs. Mais honnêtement, quand il est parti, le gars, la première chose qu'on s'est dit, moi puis ma chum de filles, puis je disais, on devait avoir comme 15 ans.
Gang de rue.
Ben non, mais on s'est dit, voyons, mais il est bien louche, lui-là, de venir nous aborder de même, de nulle part, de venir nous parler, de ne pas nous écrire, tu sais, parce qu'on est habitué que tout passe par là au niveau de la communication. Mais on n'a plus d'habileté sociale. On ne sait pas comment aborder les gens.
Exact.
Mais même ici, toi, je ne sais pas si ça te fait seul, mais moi, quand on a des 5 à 7 de job, puis on connaît, on n'est pas beaucoup d'employés chez la communication, on est une 50aine, 60aine peut-être, mettons que tu comptes Montréal, puis chaque fois qu'on a des gros 5 à 7 ici où tout le monde est là en même temps, là, même si on se connaît tous, on a affaire les uns aux autres constamment, moi, je suis toujours mal. La première heure facile. Trop de monde, on dirait que je ne sais plus à qui m'adresser. Mmh. Oui, j'ai le temps de prendre un verre pour me calmer. Non, mais c'est vrai. C'est comme si quand il y a trop de monde, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas sur quel pied de conversation commencer. C'est assez parler de la météo à un moment donné.
Oui. Tu sais, j'en jasais avec la mère de mes gosses il y a de ça 2 semaines. Elle est en Afrique présentement. Là. Elle revient mercredi. Puis elle me disait que quand elle parlait aux gars, les gars n'étaient pas toujours attentifs. Mmh. Puis ils ont de la misère à se concentrer sur une discussion.
Ouais.
Fait qu'elle leur parle au téléphone. On a la chance aujourd'hui de pouvoir jaser à distance avec nos enfants, ce que nos parents n'avaient pas nécessairement. Il fallait qu'ils prennent une cabine téléphonique. Tu sais, les vieux camionneurs là, qui nous écoutent, qu'eux autres, ils ont commencé le métier il y a 50 ans. Il fallait qu'ils fassent la file à la cabine téléphonique. Il y avait 20aine de gars qui voulaient parler à leurs femmes puis leurs enfants. Puis ils attendaient en ligne pour la maudite cabine téléphonique. Là, aujourd'hui, c'est à portée de main. Puis mes gars Je les regardais, j'en disais que leur mère. Ils étaient contents que leur mère appelle. Mais il y avait quelque chose à la télé. Oh, ils regardaient quelque chose à la télé. Ils n'écoutaient plus leur mère.
Pas capable de se concentrer.
Pas capable de se concentrer.
C'est fou pareil.
Fait que, tu sais, il y a quelque chose avec ça. Peut-être que ça va se replacer plus tard. Mais oui, tu sais, de voir, juste pour revenir à l'article qu'on vous parlait dans le Journal de Québec où on nous mentionnait qu'une majorité d'ados sont favorables à l'interdiction complète du cellulaire à l'école, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème, eux autres aussi.
Oui, puis tu vois, on a quelqu'un qui nous dit ici, moi, j'ai 23 ans. Toutes mes amies avaient un cellulaire au secondaire. Mes parents m'ont permis d'en avoir un seulement en secondaire 5. Plus jeune, j'en voulais à mes parents, mais maintenant, je suis bien contente qu'ils aient fait ça. Puis je le crois, là.
Ben, exactement, exactement. Nous autres, on s'en va en musique. Tantôt, on va recevoir notre ami Danny Morissette, qui est un ex de la Sûreté du Québec, qui était aux enquêtes majeures. On va parler de la déjudiciarisation de certaines drogues dures. On va parler aussi de ce qui se passe à la prison d'Orsainville, où des gangs de rue, entre autres celle du BMF.
BFM,
aurait mis la main sur une arme... Une arme à feu, est-ce que c'est un paint gun? Est-ce que c'est une arme à feu? C'est assez particulier, mais on a fouillé l'aile du BFM et on n'est pas capable de trouver cette fameuse arme-là. Donc, les gars, actuellement, Orsainville, puis vous ne me ferez pas pleurer, là, sont en lockdown total. Ils sont en lockdown total parce que les agents disent, c'est un peu, là, on a eu des renseignements comme quoi il y a une arme à feu à l'intérieur.
Il faut trouver.
Ça ne nous tente pas de que ce soit nous la prochaine victime. Donc, alors, Saint-Ville, actuellement, c'est en lockdown. Donc, on va parler de ça avec notre ami Danny Rouge-Pompier. Vendredi, sur les ondes de boulevard, c'est ce qu'on vous pousse dans les prochaines secondes. Sinon, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021.
L'animalerie chez miaouf.com.
Je vous parle du Tonic Gym. C'est le meilleur gym à Québec. Une expérience unique. C'est la plus grande salle d'entraînement à Québec. Il y en a 3, 4, 5, 6 salles à peu près. Ouais, je pense. Il y a une immense section cardio avec un grand nombre d'appareils Matrix dernier cri. Notre zone cardio va te permettre de te pousser au max. On a aussi des sections d'appareils musculaires. Donc, tu vas t'entraîner sur la meilleure gamme d'appareils sur le marché disponible en grande quantité et régulièrement renouvelé. Il y a à peu près 10 appareils de chaque pour chaque exercice. Donc, tu vas être gâté au Tonic Gym. Il y a une boutique et un bar santé. On fait du coaching privé aussi. Tu veux en savoir plus? Viens nous voir. On est dans les anciens locaux du Palladium pour les plus vieux. Sinon, tonicgym.ca. Tonicgym.ca.
Chez Armoire à Mel, on...
10h39, on vous parle du Carnaval de Québec. Tu vas-tu aller faire un tour?
Je fais toujours un tour au Carnaval. Je trouve ça magique.
Ça commence bientôt. Une visite au Carnaval ne serait pas complète sans assister au légendaire défilé de nuit du Carnaval de Québec. Si tu veux y aller en famille et rentrer à la maison plutôt pour les chocolats chauds en famille, c'est le samedi 8 février sur la 3e avenue à Limoilou. Ça va être dès 17h30 qu'il faut y aller. Si tu veux profiter d'une belle soirée festive entre amis, rendez-vous sur la Grande Allée à 19h. Ensuite, le samedi 15 février, il y a près de 300 artistes qui vont être là, des performances, des chars allégoriques éblouissants. Et tout ça, c'est gratuit, donc ça ne vous coûte rien si vous allez vous présenter là ces soirs-là. Tous les détails sont au carnaval.qc.ca et comme le carnaval nous suggère cette année, du 7 au 16 février, envoyez dehors! Pour plus d'informations, ben, rendez-vous au carnaval.qc.ca. Quelle température il fait dehors? Là? C'est comme confortable. Les vents ne se sont pas levés encore.
Non, c'est encore pas si pire, honnêtement. Là. C'est cet après-midi dit que ça risque d'être un peu plus difficile ce soir aussi. Là, si vous êtes sur la route, mettons qu'il annonce la neige.
On parle de bourrasques de neige et de poudrerie, des rafales à 80 km/h, un maximum de moins 2 pour ce qui est d'aujourd'hui. Un genre de 5 à 10 cm annoncé pour demain mardi. Ce sera de la neige intermittente qui devrait cesser en matinée avec de la poudrerie au travers de ça, des températures stables à près de moins 13 degrés. Donc voilà. Danny Morissette, ex à la Sûreté du Québec au crime majeur. On parle de la déjudiciarisation de certaines drogues aujourd'hui avec lui. Salut, Danny.
Hey, salut tout le monde.
Content de te revoir, mon ami.
Ben oui, bon retour de vacances.
Ah, merci. C'était pas des vacances, je m'occupais de mes enfants.
Et il nous a écoutés toute la semaine, il commentait nos affaires.
Ben oui.
On se demandait ce qu'il faisait, c'est même pointé à bête ici vendredi. Après moi, c'était pas fait pour lui, les vacances.
Quand j'allais chercher mes gars, il fallait que j'embarque dans la voiture, fait que j'écoutais ma station de radio. Je pense que c'est la chose à faire. Fait que je participais aux discussions, là. Je leur écrivais.
Fait que tu viens au travail, t'as reposé, là.
Exact.
C'est
exact.
Ça qu'ils disent, les gars à station qui ont des enfants, ils ont tous le même discours. C'est à nous, cette affaire-là.
Je vois, Danny, si t'as vu ça passer, là, à Orsainville, ça brasse en sacrifice. Les gars sont en lockdown. En fait, c'est les agents qui travaillent là qui ont dit non, nous, on a de l'information comme quoi il y a une arme à feu qui serait qui aurait été livré par drone dans les dernières heures. Puis, ben, on ne veut pas risquer nos vies. Puis, tant aussi longtemps qu'on ne fouillera pas la prison au grand complet, on les laisse en lockdown. Donc, les gars qui sont incarcérés là n'ont pas le droit de sortir et seraient nourris par le personnel de gestion. Parce qu'eux autres ne sont pas syndiqués. Là. Mmh. Fait que les syndiqués, eux autres, ne veulent pas travailler. Ils sont là, mais ils ne travaillent pas. Puis les gens de gestion, eux, nourrissent les détenus qui ont à nourrir. C'est assez particulier comme situation. Hein.
Écoute, j'ai entendu parler de l'arme à feu qui aurait été livrée par drone, mais concernant la nourriture, puis le droit des détenus, puis de la façon qu'ils sont traités, ça, par contre, je suis moins au courant.
Il y a un agent qui aurait été visé. Ça fait partie du pourquoi aussi. Là, ils veulent pas entrer dans l'aile un agent parce qu'on ne sait pas c'est lequel qui est visé. Là. Fait que ça a l'air de faire partie du pourquoi aussi on les restreint à ce point-là. Là.
C'est les technologies aussi. Des technologies qui sont assez faciles à contrer aux États-Unis. Je pense que j'en avais parlé. Aux abords des aéroports puis proches des centres de détention, on utilise des oiseaux de proie.
Ah oui?
Donc, les oiseaux de proie, s'ils voient un drone, eux ont été formés pour aller chercher le drone puis le ramener dans un endroit où il va pouvoir le déposer pour ensuite avoir sa souris. Ben donc, voyons. C'est comme ça qu'on les nourrit, qu'on les entraîne. Fait que lui, il voit un drone passer, il part, il s'en va chercher le drone, il le ramène dans la chute à déchets, à chute à drone.
Ouais.
Puis après ça, il y a sa petite surprise. Ça coûte 2-3 000 $ la formation de ce type d'oiseau de proie-là. Puis au Québec, on n'a jamais décidé d'embarquer là-dedans alors que ce serait si simple. Si simple d'intercepter tous les drones dans ces secteurs-là. C'est pas si compliqué que ça. Là. Mais on dirait que le Québec, on est toujours à la remorque de tout.
Absolument. Puis, tu sais, on parle de drones, tout ça. Moi, je me souviens, en passant dans ton dossier, l'arme à feu, je suis pas au courant, ça a été récupéré.
Pas encore.
Donc, ce que je peux comprendre, c'est qu'actuellement, à la prison d'Orsainville, il y a une arme à feu, possiblement entre les mains de détenus, qui n'a pas encore été retrouvé.
Il y aurait une arme à feu, puis l'aile du BFM a été complètement fouillée et ils n'ont rien trouvé.
OK.
Fait que c'est pour ça que les gars sont en panique, là, parce qu'ils sont supposés d'avoir une arme à feu là. À savoir s'ils vont réussir à la trouver, c'est une autre histoire. Mais pourquoi on est aussi à la remorque? Est-ce que nos services policiers, au niveau des technologies, là, est-ce qu'on est à la remorque aussi des autres endroits dans le monde où on est vraiment à la fine pointe, là?
Moi, je pense pas, c'est Danny qui parle, là, qu'on est à la fine pointe, ne serait-ce que par la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les radios-télécommunications. Je suis rentré à la Sûreté du Québec dans les années 90. On avait des radios où c'est que c'était des téléphones à l'intérieur des véhicules, pour ceux qui se rappellent, le téléphone noir, où c'est qu'on répondait au répartiteur.
Avec un fil.
Mais je vous le dis, en 2025, on a encore ça. Donc, on n'a pas évolué. Puis souvent, on travaille en partenariat avec d'autres services de police. C'est qu'on voit leur équipement puis on se dit, ouais, on fait dur un peu, là.
Ouais. Dans les véhicules de patrouille, est-ce que vous avez le droit de prendre votre cellulaire personnel? Oui,
je pense. Oui. On se sert beaucoup plus de notre cellulaire personnel maintenant quand on veut parler avec le répartiteur, quand on veut avoir plus d'informations sur une situation que passer directement par les ondes.
OK.
Ouais.
Essayez-vous de faire attention, étant donné qu'on n'a techniquement pas le droit de téléphone au volant?
Les policiers ont le droit.
Nous, on a une exemption, oui.
Mais il n'y avait pas... Oui, mais je sais que vous avez une exemption, mais c'est-tu une exemption limitée ou c'est en tout temps, mettons?
Ben, en fait, il faut qu'on soit vraiment dans un cadre légal suite à une intervention ou au moment d'une intervention. Mais si, admettons, on veut parler à notre conjointe alors qu'on est en travail et on circule sur la route, là, ça va être proscrit, évidemment.
OK.
Faire preuve de bon jugement.
C'est ça.
Voilà. Aujourd'hui, on parle de déjudiciarisation de certaines drogues dures. Est-ce que toi, personnellement, t'es favorable à ça, à la déjudiciarisation de certaines drogues dures?
J'avais peur que tu me poses cette question-là, mais je m'y attendais.
T'es évidente puis, quand même.
Oui, t'es évidente. Quand j'ai commencé le sujet, je me suis dit « oh boy ». Parce qu'effectivement, si je parle de ce sujet-là, je veux pas non plus dire aux gens « hey, à partir de maintenant... » Si vous avez 2,5 grammes et moins de cocaïne entre les poches, dans les poches, ben, il n'y a plus de problème. Vous ne serez pas, condamné pour ça. Mm. C'est loin d'être le cas. Est-ce que je suis pour ou contre? Écoute, je vais y aller avec un exemple concret que j'ai vécu, puis vous allez comprendre un peu mon opinion, parce que je suis quand même très prudent. C'est un sujet qui est délicat. Et surtout, c'est un sujet où les policiers et les services médicaux n'ont pas été mis au courant, qui étaient passés par le ministre Simon Jolin Barrette, à l'époque, un peu en dessous de la couverte, qu'on a appris après coup comme policier. Donc, la première des choses à retenir, on parle de déjudiciarisation et de décriminalisation.
Hey, c'est lundi, c'est
quand même... Je vous aide.
Voyons, tabarnouche. Criminalisation. Décriminalisation.
Voilà. Ouais. Et non de la légalisation. On s'entend, la drogue, c'est illégal, à part le pot. Quand on parle de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine, c'est entre autres les trois types de drogue qu'on va parler aujourd'hui. C'est toujours illégal d'en avoir. Maintenant, donc, si vous en avez, vous allez vous faire arrêter. C'est ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que vous allez être condamné en bout de ligne? C'est ce que je vais vous expliquer par cet exemple, okay. Avec l'exemple.
Moi, de légaliser ces drogues-là, qui sont des drogues dures, là, je suis totalement contre ça. Le gouvernement fait des pieds et des mains pour essayer d'analyser tout ce qu'on peut mettre dans la nourriture pour pas que ça soit toxique pour ceux qui vont manger cette nourriture-là. Mais de l'autre côté, on va permettre à des gens de consommer cette drogue-là qui est extrêmement dangereuse, qui va créer des ravages dans leur cerveau. Mm-hmm. Puis on n'en fera plus de cas juste parce que la loi n'est pas capable de suivre. Si on les arrête toutes, Yann, il va y avoir beaucoup trop de monde dans les pénitenciers. On n'a pas assez de place. Si on les arrête toutes, Yann, on n'aura pas assez de juges pour juger toutes les causes. Oui, mais regardez ce que ça donne dans certains secteurs de Los Angeles. Regardez ce que ça donne à Toronto dans certains secteurs, à Vancouver dans certains secteurs. C'est des quartiers de zombies où les gens, ils vont même plus parce qu'ils sont extrêmement dangereux.
C'est une mesure aussi, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas capable de se gérer, là.
On n'est pas capable de se gérer, donc on devient un peu plus lousse sur certains trucs. Mais de voir ces secteurs-là où on abandonne carrément ceux qui ont pris ces drogues-là, puis ils dorment dans la rue, puis ils meurent dans la rue, je trouve ça épouvantable. Puis oui, parfois, il faut aider les gens à se protéger contre eux-mêmes. Puis ces gens-là consomment ces dopes-là, puis ils devraient avoir des conséquences, puis les aider, une fois qu'ils sont rendus entre les murs, bien, les aider à se désintoxifier avec des professionnels qui sont là, qui peuvent les aider tant au niveau des médicaments à prendre pour se détoxifier de ça, puis enlever la dépendance, puis de l'aide aussi au niveau psychologique. Mais de permettre à tout le monde de prendre ces grosses drogues dures-là, comme la meth, exemple, les résultats en bout de ligne sont catastrophiques. Je ne peux pas croire qu'on y pense encore à déjudiciariser ça.
Mais tu vois, tu as deux écoles de pensée là-dedans. Tu as l'école de pensée de Yann Marceau et je pense de la majorité des citoyens au Québec que ça n'a pas de maudit bon sens. On est rendu là. On est rendu que c'est plus le pote. Là. On est rendu avec la cocaïne, l'héroïne. L'héroïne dans un moindre... Il y en a beaucoup moins, là. Mais de la méthamphétamine, il y en a.
Cristal meth, il y a encore eu des grosses saisies dans les derniers jours à Québec.
Fentanyl, etc. Oui. Tu sais, c'est comme tu dis, ça cause des dommages épouvantables. J'en ai vu du monde pas dedans, du monde amoché par rapport à cette drogue-là. Puis ça, vous aussi.
Puis ça prend des ressources. Ça prend des ressources à l'hôpital.
Oui. Mais là, t'as la deuxième école de pensée qui... Encore une fois, est dû à cette politique-là, cette loi-là, ce projet-là, qui est le droit à la deuxième chance, la réhabilitation, les mesures transitoires. Bon, maintenant, laquelle choisir? Avant de parler de mon exemple, d'où c'est que ça vient, ce projet de loi-là? Tu l'as parlé, ça vient de Vancouver. Au BC... il y a surtout dans le centre-ville, pour ceux qui sont déjà allés à Vancouver, c'est épouvantable. Là. Il y a des junkies partout, au sol, tu as de la misère à marcher, tu en vois à tous les coins de rue. Mais le gouvernement, à ce moment-là, se sont dit « OK, c'est beau ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un projet de loi du mois de janvier 2023, ça fait pas très longtemps, là, jusqu'en janvier 2026, où c'est qu'on va décriminaliser... Je l'ai bien dit. toutes les personnes qui sont en possession simple de stupéfiants de 2,5 grammes et moins, en ce qui a trait à la cocaïne, entre autres. Et puis, c'est en cours actuellement. Nous, au Québec, on a dit « Hey, c'est pas fou, cette idée-là. » Même si on est loin de ressembler à Vancouver, on va faire la même chose de notre côté. Donc, on a parti ce projet de loi-là qui s'appelle la DRO-1 au niveau du DPCP, des procureurs, qui est de déjudiciariser la possession simple. Et ça a débuté au mois d'avril 2023. Il y a certaines exceptions qui s'appliquent. Et encore là, tu sais, on est au tout début de ça. Et j'ai parlé à des procureurs, à un procureur avant de venir voir, savoir ce qu'il en pensait. Et évidemment, il ne voulait pas que je nomme son nom. Mais en gros, c'est du cas par cas. Donc, les exceptions vont être surtout en ce qui concerne les risques pour la sécurité publique. Présence de mineurs. Vous avez de la drogue, vous êtes en présence d'un mineur, oubliez ça, vous allez être accusé. Dans un milieu scolaire, vous allez être accusé. Si vous êtes conducteur d'un véhicule, vous avez de la drogue sur vous, vous allez être accusé. Dans un milieu de travail avec un risque pour la vie, la sécurité, un gars de la construction, par exemple, qui travaille sur des échafauds, vous allez être accusé. Dans les prisons, les hôpitaux, les groupes de thérapie, même chose. Ce sont les exceptions, mais comme je vous dis, c'est du cas par cas. Dans mon ancienne vie, les trois dernières années de ma carrière, quand j'étais responsable de la division d'intervention sur le crime organisé à Québec, qu'on couvrait l'est de la province, on allait souvent sur la Côte-Nord. Je vous donne un exemple concret pour vous démontrer ne serait-ce que l'impact que ça apporte au milieu policier. Vous parlez de mon ancien milieu. Donc, on allait souvent faire les bars. Quand je dis faire les bars, c'est un peu comme l'escouade grippe. On avait une présence policière, on était une équipe de 10. On faisait tourner des bars et un des buts de cette opération-là, c'était pas seulement la visibilité, mais c'était de réussir à attraper des gens en possession de drogue, un, pour les accuser, et souvent parce que ces gens-là vont nous amener de l'information pour aller chercher plus gros qu'eux autres.
OK. Est-ce que vous étiez tous des gars de Québec qui partaient vers la Côte-Nord?
Oui, on était une escouade spécialisée de Québec qui couvrait toute l'est de la province, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Puis vous partiez pour combien de temps?
Ah, des fois, on partait une semaine. Moi, ma femme, elle pourrait vous le dire, les trois dernières années de ma carrière, j'étais pratiquement jamais chez nous.
Okay. Tu dormais à l'hôtel avec toute la gang?
C'est ça, on dormait à l'hôtel.
Il y a des coûts associés à ça aussi. Là.
Oui, c'était très, très cher, puis il y a beaucoup de temps supplémentaire aussi. Ouais. Mais par contre, on parle de la guerre entre les trafiquants de drogue, les motards. On était en plein là-dedans, ou à tout le moins au tout début. Encore aujourd'hui, mon ancienne gang est encore à cette île. Rien que vous démontrer à quel point c'est important. Mais le but, c'est vraiment de recueillir de l'information pour aller chercher les têtes dirigeantes.
Parce que c'est plus facile dans ces régions-là?
Non, parce que vraiment, cette île, ces temps-ci, puis Baie-Comeau aussi, c'est vraiment des villes qui sont touchées par cette guerre-là, où c'est qu'il y a beaucoup d'incidents, un peu comme on voit sur la rive sud de Québec, en Beauce, mais là-bas, c'est pas encore réglé. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça s'est beaucoup calmé, mais t'as encore une bonne guerre au niveau de la Côte-Nord puis dans le Bas-Saint-Laurent pour le contrôle du trafic des stupéfiants. Donc, je m'en vais à Baie-Comeau, c'est-il avec ma gang. Je reçois un appel du directeur du poste de police de Port-Cartier. Dans ton coin, oui.
Dans mon coin, mais oui.
Il m'informe, pour faire une histoire très rapide, qu'il y a un trafiquant de stupéfiants qui ont beaucoup de difficultés à appréhender. Ils vendent dans les bars, donc ils rentrent un peu dans ma sphère d'activité. Et il voudrait qu'on fasse un tour dans ce bar-là, puis qu'on essaie de l'attraper. Donc, je dis, il s'appelle Pierre Bilodeau. Je dis, c'est beau, Pierre, envoie-moi toutes les informations que tu as sur ce gars-là, sa photo, le bar où est-ce qu'il vend, et aussi son adresse personnelle, sa voiture, tout le kit. On monte, on fait Baie-Comeau une journée, on fait Sept-Îles l'autre journée, et finalement, Sept-Îles, il est rendu 2h15 du matin, et pour ceux qui le savent, Sept-Îles, Port-Cartier, c'est environ quoi, Audrey? 45 minutes?
C'est à peu près 45-50 minutes, oui.
45 minutes. Et là, j'ai encore cette mission-là dans ma tête, mais c'était plus long que prévu, Sept-Îles. On se dirige à Port-Cartier, je vous dirais 2h45 à peu près du matin. Mon collègue et moi, on intercepte une jeune fille qui finit par nous dire que, justement, elle s'en va dans ce bar-là acheter de la drogue à notre sujet. Et en même temps que j'appelle mes gars qui sont déjà sur les lieux pour les informer que le sujet est là, ils m'informent que, justement, ils viennent de le prendre en flagrant délit en train d'essayer de vendre de la cocaïne à un groupe d'individus. Bingo, la mission est accomplie, on l'a arrêté. Le gars, il y a un dossier judiciaire de trafic de stupéfiants qui date de 20 ans. C'est un gars que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été capables de pogner, mais que tout le monde dans la place savent qu'il vend des stupéfiants, et nous autres, on l'a. On envoie le dossier au procureur de la Couronne. 3 mois plus tard, reçoit un refus d'intenter les procédures suite à une quantité insuffisante ou minime de stupéfiants. On l'avait pris avec 2 grammes de cocaïne.
Fait que vous avez travaillé dans le vide.
Donc, on a travaillé dans le vide. Non seulement on a travaillé dans le vide, on s'est déplacé. Ça a coûté du temps homme, tu parles de budget. Ça a coûté également faire un dossier de possession simple de stupéfiants, là, ceux qui pensent que ça prend une demi-heure sur le coin d'une table, là, c'est faux. Il faut prendre la drogue, il faut l'envoyer à l'analyse à Montréal pour que recevoir un rapport à l'effet qu'effectivement, ce n'est pas du sucre, ce n'est pas du sel, c'est vraiment de la cocaïne. Il faut remplir le rapport de demande d'intenter les procédures, le soumettre au procureur, sans compter que le gars, il est arrêté, il est détenu, il est interrogé. On a du temps homme là-dedans. Et moi, j'apprends cette loi-là, la DRO-1, ce projet de loi-là, de même. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et là, je fais des recherches et j'appelle des gens. Et finalement, j'apprends que, ouais, c'est une nouveauté. Et finalement, ça va être du cas par cas. Et là, par la suite, on a arrêté d'autres. Et toujours le même résultat. Ah non, quantité de drogue infime, on poursuit pas.
Mais moi, c'est la raison pour laquelle je trouve ça niaiseux, le fait de penser à décriminaliser, parce que dans ma tête, ces vendeurs-là sont pas innocents. Là. Ils vont s'organiser pour pas être pris avec plus que la quantité permise.
Voilà, ils le savent. Ils suivent ces projets de loi-là. Et là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais Danny, tu devrais peut-être même pas en parler à la radio, là. T'es en train de les informer. » qui ont le droit d'avoir 2,5 grammes et moins sur eux autres. Mais moi, ce que je veux démontrer, c'est que ça... Regarde, je vais leur donner mon opinion. Je suis du même opinion que toi, Yann. Ça n'a pas de bon sens. Un, informer les policiers avant de sortir un projet de même, et non par la suite. Et deux, éviter de nous faire travailler dans le vide.
T'sais, c'est pas comme si vous manquiez de job, mettons, là. Fait que de vous avoir au moins aux bonnes places, là.
On va se concentrer sur d'autres choses. Tout simplement.
C'est ça. Ils mettront pas tous les hommes sur ce type de cause-là, parce qu'à un moment donné, ça donne rien. Ils sont pas capables de les poursuivre en cour puis les faire déclarer coupables. Donc, de se concentrer peut-être sur quelque chose qui va valoir peut-être plus la peine. Je veux revenir sur le fait que vous avez intercepté une jeune fille qui s'en allait justement à ce bar-là,
oui.
Qui vous a dit « Ben oui, je m'en vais chercher de la drogue à ce bar-là. »
Ouais.
Ça arrive-tu souvent, ça, ces gens-là que tu rencontres qui disent la vérité?
Ben, ça, c'est un... Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais une jeune fille qui a 18 ans, il est 2h45, elle est seule dans son véhicule et elle a 100$ dans ses... Même pas dans ses poches, dans ses mains, qui est sur le bord d'arriver au bar. On fait notre chance un peu. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. On se doutait bien qu'elle allait faire une transaction. Et le but, c'est pas nécessairement... d'arrêter les consommateurs. Nous, ce qu'on veut, là, je parle vraiment du crime organisé, des enquêtes, c'est arrêter les trafiquants, ceux qui vendent la drogue. Donc, elle, ça aurait donné de quoi? De toute façon, elle n'a pas commis d'infraction. Elle s'apprêtait à en commettre une. Donc, nous, on voulait vraiment se concentrer sur ce gars-là.
Oui, t'es vraiment franche, là. Quand tu fais des interceptions, ou du moins au début de ta carrière, quand tu faisais des interceptions comme policier, est-ce que les gens étaient tout le temps extrêmement francs? Je sais pas, moi. Ils roulaient à 120, à 110 km/h d'une zone de 70. Bon, et c'est quand même, il est quand même au-dessus de la limite pas mal. Il te sortait-tu tout le temps une multitude de « Ah, ben là, j'étais pressé. Ah, j'ai pas vu que je lève cette vitesse-là. Ah, ben non, monsieur, j'allais pas à cette vitesse-là. Je suivais le véhicule en face de moi. » Qu'est-ce qu'il faut faire lors d'interceptions routières, t'sais? Moi, j'ai tout le temps été du type un peu « friendly ». Puis honnêtement, Audrey, c'est pas la première fois que je le dis, là.
Ça marche.
En étant poli et friendly, je me suis sauvé de plusieurs contraventions.
Même place que toi.
Puis si, admettons, je me faisais prendre à 10-20 km/h au-dessus de la limite permise, ben si j'avais pas mon papier d'immatriculation, ben il allait me donner un billet de contravention pour mon papier d'immatriculation qui était de 50-60$, mais il allait pas me donner mon excès de vitesse.
Ouais.
Parce que j'avais une façon polie de lui parler.
Et c'est la base. Là, j'ai le goût d'être généreux envers les auditeurs. Je vais vous donner des conseils lors d'interactions avec les policiers dans diverses situations. On va débuter avec les interceptions routières pour maximiser, on va le dire de même, vos chances de ne pas avoir de constat d'infraction. Je ne vous fais pas de promesses, mais vous allez voir, la majorité des conseils, vous les connaissez. Maintenant, il faut les appliquer. Première des choses, c'est jamais le fun de se faire suivre par un véhicule de police. Moi-même...
Et que c'est stressant.
C'est stressant. Puis moi-même, ça me stresse. Puis pourtant, j'ai été policier pendant 26 ans et demi.
C'est fou parce que je pense pas que c'est l'effet qu'un policier veut avoir de base. Mettons qu'on revient à la base du métier de police où tu es censé protéger la population. On devrait se sentir en sécurité d'avoir une police près de nous. Mais tout le monde capote sa route quand t'en as une pas loin.
Oui, bien, d'ailleurs, ça fait du bruit. Là. C'est très visible aussi quand tu regardes ça dans tes rétroviseurs. Mais quand les producteurs radio mettent des sirènes à l'intérieur des publicités.
Ouais.
Tout le monde est sous stress.
Ben oui, il y a des ils ont interdit à un moment donné le fait de mettre les sons de sirène dans les chansons aussi.
Mais là, ils ont recommencé depuis 2 ans. Il y en a qui ont recommencé à mettre des sirènes de police dans les publicités. Puis à chaque fois, tu regardes dans ton rétroviseur puis tu as l'impression que le cœur veut te lâcher. C'est, que j'ai fait.
Ah, ben oui, je n'étais pas au courant de ça.
Ouais.
Mais moi, ça me stresse encore. On se pose tout le temps la question, hey, j'ai-tu fait de quoi de pas correct? On va regarder si sa ceinture est attachée.
Même comme
je voulais
trop
vite. Même quand j'étais policier.
Vous évitez pas étiquette, vous autres?
Écoute, ça pourrait être un autre débat, un autre sujet.
Je trouve que c'est une question très pertinente.
je trouve qu'elle vaut la peine d'être posée.
Est-ce que tu as déjà eu des collègues qui ont sorti leur batch quand ils se faisaient intercepter, Danny?
OK, OK.
On le sait que ça arrive.
Est-ce qu'il disait « Salut, confrère? »
C'est sûr que oui, mais oui, il laisse sa badge vraiment visible là, sur le banc d'à côté, tu sais. Ouais.
Je vais vous conter une anecdote pour répondre à votre question.
Vas-y.
Là. À la fin des années 90, le policier qui donnait un constat d'infraction à un de ses collègues de travail, même s'il ne connaissait pas, l'exemple, un policier de, je vais dire n'importe quoi, SM Mirabel donnait un constat d'infraction à un policier de la Sûreté du Québec. Le lendemain, là, on avait des fax, là, et le constat d'infraction là, était imprimé et envoyé dans le fax dans tous les postes de police. Fait qu'on savait c'était qui les policiers pas corrects qui avaient donné un constat d'infraction aux autres policiers.
Ah,
fait que tu peux pas faire respecter, genre, la loi, là. Fallait comme... Oh, mon
attends
Dieu,
un peu, là,
correct.
Ça fait au-dessus de 25-26 ans.
Oh oui, les temps ont changé, hein, Danny?
Sûrement.
Non, les temps n'ont pas changé. Je vous dirais qu'on fait très attention. On a quand même une nouvelle génération de policiers qui est formée pour que... Et là, je suis très prudent dans mes propos pour faire respecter la loi, mais on a un pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait au pénal. Donc, ça va être excessivement rare, pour être franc et transparent avec vous, qu'un policier va donner un constat d'infraction à un autre policier. Il va falloir que le policier ait été moyennement baveux puis qui a vraiment fait une infraction épouvantable.
Puis peux-tu te vanter, mettons, que, je sais pas, là, ton mari est policier quand tu te fais arrêter? Tu sais, ça marche-tu par... tu sais, mettons que j'ai quelqu'un dans la famille qui est policier, ça marche-tu par personne...
Ben, OK, je vais vous donner un conseil, les auditeurs, là. Si vous avez un ami, là, ben, prenez sa carte d'affaires, un ami qui est policier, là, mettez-la à côté, vous allez pouvoir me conduire. Moi, ma femme, elle a toujours ma carte d'affaires, là.
Oh,
elle la montre
ouais.
pas, là. Elle la montre pas, mais quand elle sort son permis de conduire, regardons ça, il y a le logo de la Sûreté du Québec. C'est certain que le policier est curieux, il va poser des questions.
Puis des fois, il y a des affaires weird qui se passent, Audrey. Puis je sais pas, je te l'avais déjà raconté, j'ai une amie qui est chimiste, OK? Puis elle est allée faire une transaction, elle s'est acheté un véhicule, puis tout ça s'est fait par Internet, là, avec le fameux Saclic.
Ouais.
Puis tout était fait en bonne et due forme. 2 ou 3 jours plus tard qu'elle ait acheté son véhicule, elle a quand même, Mel, elle a quand même les cheveux très, très courts, là. Petite coupe garçonne, OK?
Okay.
Puis là, ben, elle se fait intercepter par un véhicule de la Sûreté du Québec. Et la dame qui l'intercepte dit « Votre immatriculation n'est pas dans nos... est pas dans notre ordinateur. Je suis pas capable de vous trouver. Est-ce que vous avez vos papiers? »« Ah oui, j'ai les papiers, tout ça. » Elle est allée dans sa voiture, elle a fait des vérifications, puis elle va dire... Elle est revenue en disant... OK, c'est beau. Je sais t'es qui. Je t'ai pas supposé t'intercepter. Tu peux partir. Je vais faire comme si c'était rien passé. Ce qui a laissé présager à Mel que la policière pensait qu'elle, c'était undercover. Là.
Oh mon doux!
Qu'elle avait un véhicule de parce que c'est vrai que ça ressemble, son véhicule ressemble beaucoup à un véhicule de police qu'il utilise là, pour faire
c'est spécial,
des petits suivis. Ouais. Fait qu'elle est repartie et elle dit OK. Mais c'est une chimiste, là.
Ah, ça n'a comme pas rapport pantoute, là.
Ben, ça n'a pas rapport, sauf qu'elle, elle travaille pour une entreprise privée qui fait affaire avec la Sûreté du Québec pour des analyses chimiques.
Ouais.
Ben, ça n'a aucun lien avec son travail, sa voiture personnelle.
Mais je trouve pas ça correct. C'est chiant pour tous ceux qui n'ont pas de parenté police.
Ouais. Les gens, il y a des gens, normalement, quand tu te fais intercepter, OK? Tu te tasses à droite, OK?
Ouais.
Tu fais attention, tu te tasses à droite. Si tu es capable, s'il y a une entrée de stationnement, tu t'en vas dans l'entrée de stationnement. Tu essaies de te protéger, de protéger la police le plus possible. Fait que tu te mets à l'écart. Il y a des gens qui ont le mauvais réflexe de se tasser à gauche.
Oui.
Ce qui est une idée de marde, là.
Je veux dire, t'es sur le boulevard.
Ouais.
Tu te tasses, qu'est-ce que tu fais?
Oui, effectivement, ça fait partie des conseils.
C'est stress.
Mais oui, garde, pour être franc, ça va être excessivement rare d'avoir un constat d'infraction. On va peut-être avoir une petite morale, puis on n'est pas fiers de ça là, comme policier. Là. Moi, je respecte autant que possible les limites de vitesse. Je fais mes stops, tout qu'est-ce que les feux rouges, tout ça. Puis quand on se fait intercepter, on est mal à l'aise, là, puis on ne montrera pas notre batch. On va discuter un peu avec le policier, puis à un moment donné, on va essayer de glisser dans la conversation. Si tu plates, tu sais, je suis un de tes collègues, mais à ce moment-là, c'est certain que c'est gênant aussi comme policier de donner un constat d'infraction à un autre policier. Ça va dans deux sens. Mais, comme j'ai déjà dit, le boulanger paye son pain moins cher. Peut-être que vous, vous avez certains avantages à la radio que moi, j'ai pas.
Ouais, oui, mais là, je pense que là où ça dérange les gens, c'est que tu payes ton pain moins cher, c'est du pain, Danny. Mais là, on parle de la loi, tu sais, on parle du code de conduite sur la route. C'est le téléphone au volant, mettons, là. Tu sais, j'imagine qu'un policier qui est pas en uniforme, que son téléphone au volant va l'éviter, le ticket. Mais tu sais, c'est aussi dangereux, on s'entend, t'es pas en service, tu sais.
Oui, oui.
Là, je me fais le diable en passant, là. Je pense que tout le monde le savait, là.
Je pense que tu te faisais l'avocat du diable.
C'est quoi, j'ai dit, le diable.
Ouais. Puis c'est correct. Puis tu sais, tout le monde me pose cette question-là.
Oui, c'est normal.
Est-ce que de mentir aux policiers, ça peut aider? C'est-à-dire, ah, ma conjointe, je suis vraiment désolé, là, ma conjointe est enceinte, là, je m'en vais vers l'hôpital. Tu sais, le flic, il va-tu me suivre jusqu'à l'hôpital pour
absolument
vérifier?
Oh, ouais,
ouais.
Hein?
Je l'ai déjà fait.
T'as suivi le gars jusqu'à l'hôpital?
Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ma femme a fait une crise de cœur et puis elle est sur le bord de mourir, puis c'est pour ça que je suis pressé, puis je m'en vais à l'hôpital. Je dis, ben pas de trouble, moi-même t'aider, je vais t'escorter avec les lumières puis tout.
Et là,
fait que là, il était
mais...
comme mal à l'aise. Je dis, go, on s'en va à l'hôpital Enfant Jésus. On est parti en fou, il me suivait en arrière. Mais sauf que le problème, c'est que je suis débarqué avec lui.
Oh non.
Dites-vous une chose, là, un policier patrouilleur, là, dans une journée normale, va intercepter en moyenne 10 véhicules. Fait que tous les mensonges, là, faites le calcul, là, 200 jours de travail par année, ça fait 2000 interceptions, on les a toutes entendues. On connaît les répliques à
toutes. Ma mère est tombée dans le bain, elle a presque perdu connaissance.
Ben, on va appeler l'ambulance.
Je pense que j'appellerai ma mère, puis je dirais, installe-toi dans le bain, puis...
Donne-moi l'adresse de ta mère, on va appeler l'ambulance. Écoute, il n'y a rien de pire que de mentir à une police. Là-dessus, je pense qu'on devient des excellents détecteurs de mensonges.
Ouais.
Mais pour revenir au sujet, pour maximiser vos chances de sauver un constat d'infraction, tu en as parlé, Yann, effectivement, la première des choses, là, si vous faites intercepter, là, paniquez pas, là, c'est pas la fin du monde. Le policier, il veut rien que peut-être faire une vérification. Toujours se ranger à droite de la route. Toujours vous placer. C'est mon cellulaire. Je suis désolé.
Ça, Danny, c'est pas parce que une police qu'on va accepter ça, hein, parce que nous autres, le téléphone, on va
Si je suis pas d'accord avec l'attitude du policier, est-ce que je lui dis?
Ben, absolument, vous avez le droit. Puis, tu sais, le policier qui est cocky un peu, qui est arrogant ou qui vous donne des explications qui font pas votre affaire, vous pouvez argumenter avec lui, mais... Tu sais, gardez pas ça pendant une demi-heure de temps. Envenimez pas la situation.
Parce que c'est sûr que tu vas l'avoir, ton ticket.
À ce moment-là, moi, ce que je vous suggère, si jamais vous n'êtes pas satisfait du comportement, de l'attitude d'un policier, appelez au poste de police, demandez à parler à son supérieur. Et si vous... Souvent, les gens vont dire, « Ouais, mais le supérieur, tu sais, il connaît le policier puis il ne blâmera pas tout ça. » À la limite, vous pouvez déposer une plainte en déontologie. À ce moment-là, ça peut se faire via Internet ou via un formulaire Internet, mais il faut vraiment qu'il y ait eu une attitude qui est reprochable.
Hey, autre chose, Danny, si, je sais pas, moi, j'ai un impact avec un autre véhicule, puis ça, je pense que tout le monde devrait lever le son, là, surtout ceux qui ont comme l'habitude de dire « Non, on appelle la police. » On est-tu obligé de tout le temps appeler la police quand les deux véhicules, c'est que des égratignures? Le constat à l'amiable peut sortir du trouble bien du monde, puis tu prends des photos avec ton cellulaire maintenant, c'est assez facile. Plutôt que de rester en plein centre du chemin, tu sais, sur l'autoroute, mettons, à l'entrée des ponts, là, ils restent en plein centre, ils se sont juste tamponnés un peu, puis là, ben, ça demande l'intervention d'un véhicule de la Sûreté du Québec. Ces gens-là, là, ils peuvent-tu juste se tasser sur le côté et déplacer leur véhicule puis être tout à fait crédible devant les policiers si les policiers sont appelés sur place par la suite?
Bien, la règle, là, c'est que le constat à l'amiable a la même valeur qu'un rapport d'accident policier. Donc, ça va aller aussi vite, même plus vite dans certains cas, que si vous faites faire un rapport policier qui va exiger un déplacement policier, la rédaction du rapport, etc. Moi, ce que je vous dis, souvent, ce qui arrive, c'est que là, les compagnies d'assurance ils aiment bien avoir des rapports policiers, eux, parce qu'ils trouvent que c'est plus formel. Si jamais l'assurance vous rappelle et vous dit « ça me prend absolument un rapport de police par rapport à cet accident-là. Il n'est jamais trop tard pour retourner au poste de police et dire « mes assurances m'exigent un rapport policier. »
Ah, OK, ça va être fait quand même.
Ça va être fait quand même.
Tu parles de temps, Dani. On trouve toujours que c'est long quand on se fait arrêter ou quand il arrive quelque chose.
Oui.
Ça prend combien de temps en moyenne? Si tu... Faites-vous exprès? Il y a des gens qui sont comme « Ah, je suis 30 minutes en retard, je me suis fait arrêter. » Est-ce que vous étirez ça pour le fun ou c'est parce que ça prend vraiment beaucoup de temps?
OK. Là, on ne parle pas d'arrestation, mais d'interception.
Oui.
Parce que là, il y a une grosse différence entre les deux. Lorsque vous faites intercepter sur la route, il faut être patient. Soyez patient à l'intérieur de votre véhicule et surtout, restez à l'intérieur de votre véhicule. Il n'y a rien de plus fatigant pour un policier que quelqu'un qui sort, qui rentre à l'intérieur de son véhicule pour deux choses. Première des choses, c'est sa sécurité à lui. On parle d'une autoroute, admettons. L'individu qui sort de son autoroute, ça, c'est tellement dangereux, ça va tellement vite que lui, il tombe un peu sous notre responsabilité au moment où c'est qu'il est intercepté. D'où l'importance de rester à l'intérieur de votre véhicule. Deux, on ne vous connaît pas. On ne sait pas qui vous êtes. Et nous, les policiers, ce qu'on fait comme policiers, on surveille toujours les mains. En regardant les mains, en les visualisant, on est en mesure de contrôler l'individu. Vous me suivez? Mm-hmm. Donc, faites jamais de gestes nerveux. Mettez jamais vos mains dans vos poches. Essayez de rester à l'intérieur de votre véhicule. Les policiers aiment beaucoup lorsqu'on arrive, on voit vos mains, puis que vos trois documents, on vous demande toujours les trois mêmes documents. Permis de conduire, certificat d'immatriculation, assurance. Vos documents, là, préparez-les. Mettez-les, je vais vous donner une suggestion, là, souvent le pare-brise, là, où est-ce qu'il y a le miroir, là, mettez-les là. À ce moment-là, nous, ça nous permet de voir vos mains. Et puis, vous êtes déjà prêt. On vient de sauver énormément de temps. C'est beaucoup moins fatigant que si vous mettez à fouiller dans vos poches, sortez votre permis de conduire ou fouiller dans le coffre à gants. On ne le sait pas, il y a peut-être un arme à feu à l'intérieur du coffre à gants. Ça nous met beaucoup plus nerveux.
Si, admettons, je me fais intercepter sur la rue Saint-Jean, puis là, ben, je me gare sur le côté, puis je suis à côté du trottoir. Pendant la vérification puis l'émission de la contravention, je peux-tu rester sur le trottoir? Puis si le policier me demande de rentrer dans le véhicule, je suis obligé de rentrer dans le véhicule s'il me le demande? Techniquement, non.
Techniquement, non, parce que vous n'êtes pas en état de détention, en état d'arrestation. Mais s'il vous demande de rester à l'intérieur du véhicule, c'est parce qu'il y a sûrement une bonne raison.
Si je me fais intercepter, puis j'étais avec Audrey sur le banc du passager, je me fais intercepter, bon, moi, je suis en possession du véhicule, donc je dois donner mon identité. Est-ce que l'autre personne, si elle se fait demander sa pièce d'identité par un agent, est-ce qu'elle doit donner son identité ou elle peut juste dire, ben moi, je peux refuser?
T'étais pas là, t'étais en vacances, c'était avec Pascal, on en a parlé. Lorsque vous êtes passager d'un véhicule, à moins d'avoir commis une infraction, ne pas avoir mis sa ceinture, avoir jeté par la fenêtre une top de cigarette, vous n'avez pas l'obligation de vous identifier.
Quand quelqu'un jette sa top de cigarette par la fenêtre, c'est
une infraction au code
de la route. C'est une infraction? Ah oui.
Oh, vous devriez donner plus d'étiquettes.
Oui, mais...
Hey, moi, je reçois un botch de cigarette dans la face.
Et c'est insultant.
En moto.
Ah! Arrête, ouais. En plus!
Ah oui. Il était avec sa belle MX, Mazda MX quelque chose, là.
Ouais.
Puis en décapotable. Puis il a pitché sa cigarette. Moi, je passais en arrière, je l'ai reçu d'en face.
Ah! Oh. Mettons que tu jettes une pomme là, dans le bois. Là.
C'est la même infraction.
C'est une infraction aussi, même si ça se
dégrade. T'as pas le droit de rien. T'as pas le droit de rien jeter.
Fait que tu peux arrêter de le faire tout de suite.
Oui, il faut que t'arrêtes.
Oui, je l'ai déjà fait. On l'a tout déjà fait, je pense.
Il y a quand même une raison pour laquelle les policiers demandent pratiquement toujours l'identification du passager du véhicule. C'est une question, pas rien que pour savoir c'est qui la belle-fille qui est assise à droite, ou c'est vraiment une question de sécurité, savoir à qui on a affaire. Mm. Mais au niveau de l'obligation de s'identifier, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, moi, ce que je vous suggère, si vous n'avez rien à vous reprocher, là, donnez-la donc votre permis de conduire. T'sais, au lieu de commencer à niaiser la police, ça va rien rallonger l'intervention.
Dani Morissette, on n'a pas eu le temps de passer à travers tout le dossier qu'on voulait faire aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que Dani Morissette est un ex à la Sûreté du Québec. Il était au crime majeur, puis il vient nous voir une fois de temps en temps. C'est toujours un plaisir de te recevoir, mon ami.
Pareillement.
Tu reviendras dans quoi, 2 semaines? C'est-tu réglé déjà?
2 semaines. C'est toujours réglé. T'es au calendrier dans 2 semaines, Dani.
Mais oui, puis si jamais les auditeurs ont des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde, de la curiosité...
Ouais.
Gênez-vous pas. On n'est pas à bout de chronique, mais on va continuer là-dessus.
Merci, Danny. On s'arrête 11h16, on revient. Reg against
le matin. Farnell Morissette est avec...
Promis.
Open mic!
L'open mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
C'est la première de l'open mic.
Hey, mon Dieu, faut déjà se dire bye.
Faut déjà se dire bye.
Ça passait trop vite, Yann.
Ça passe vite. Là, t'as eu tous tes conseils de Danny pour pas pogner de tickets la prochaine fois.
J'ai vraiment été niaiseuse. Je te compterai ça demain.
Ah ouais?
Ouais, je te compterai ça demain. On va commencer avec ça. Je te compterai ça demain.
Je te souhaite de passer une belle journée, Audrey, de même qu'aux auditeurs qui nous quittent. Mais pour les autres, si vous restez là, Pascal CV s'amène pour Marceau le midi. Denis va être là dans le pit stop aussi.
Bonne retrouvaille.
On a un gros show pour vous autres. Oui, des retrouvailles. Tu penses qu'elle s'est ennuyée un peu, mettons?
Ah, je sais pas.
Non?
Je veux pas te décourager. Tu regarderas ça avec elle, je m'en mêle pas.
Elle était bien, hein? Ouais.
On était bien.
OK.
C'est pas vrai.